Pierre-Étienne Joie.
Les multinationales suisses doivent respecter les droits de l'homme et la protection de l'environnement en Suisse et à l'étranger et être tenues responsables des dommages causés. La deuxième initiative sur la responsabilité des entreprises a été déposée ce matin à Berne, munie de près de 290 000 signatures. En 2020, un premier texte en ce sens avait obtenu la majorité du peuple, mais pas celle des cantons. À Berne toujours, l'Union syndicale suisse a fait part ce matin de son inquiétude concernant une attaque sur les bas salaires. L'affaire remonte à l'adoption par le Parlement d'une motion qui demande que les conventions collectives de travail étendues l'emportent sur les règles cantonales en matière de salaire minimal. Les chambres se penchent désormais sur la concrétisation du projet, un projet que l'USS entend donc combattre de toutes ses forces. On rappelle que 5 cantons ont déjà introduit un salaire minimum. Il s'agit de Genève, de Châtel, Jura, Bâle-Ville et le Tessin. Le ministère russe de la Défense accuse Kiev d'intensifier ses attaques aériennes en Russie pour perturber le processus de négociation entre les deux pays. Les frappes meurtrières en Ukraine durent depuis plusieurs jours. La Russie affirme que l'Ukraine a depuis le 20 mai multiplié les attaques à l'aide de drones et de missiles contre des installations civiles en Russie et d'ajouter que ses propres frappes en Ukraine sont une réponse à des attaques qui ont fait des victimes civiles russes. L'ancien maire de Paris, Jean Tiberi, est mort à l'âge de 90 ans, dernier édile de droite de la capitale. Il avait succédé en 1995 à Jacques Chirac, dont il était un grand fidèle, avant d'être battu en 2001 par le candidat socialiste Bertrand Delanoë. Les pays de l'Union européenne ont définitivement adopté un accord pour faciliter leurs achats en commun d'armement. Ce programme européen est doté de près de 150 milliards de francs. Il s'agit de produire des missiles, des munitions, des drones ou encore des systèmes de défense antiaérienne. Et l'Union européenne encore qui ouvre une enquête contre des plateformes pornographiques dont Pornhub. Elles sont soupçonnées de ne pas prendre de mesures suffisantes pour empêcher les mineurs d'accéder à leur contenu. Dans le cadre de la nouvelle législation sur les services numériques, la Commission européenne pointe l'absence d'outils appropriés pour vérifier l'âge des utilisateurs et donc protéger les mineurs des contenus pour adultes. La Confédération s'inquiète des accidents graves à la hausse dans les transports urbains, en tram et en bus. Elle soutient une campagne de prévention à cet égard. Le niveau de sécurité dans les transports publics reste élevé, rassure-t-elle toutefois. En matière de sécurité ferroviaire, la Suisse occupe la troisième place derrière le Royaume-Uni et les Pays-Bas en comparaison internationale. Les tirs préventifs de loups ont permis de freiner la croissance rapide de la population du canidé, selon l'Office fédéral de l'environnement. Au total, près de 130 bêtes ont été abattues durant les deux périodes de régulation entre 2023 et 2025. Le nombre de meutes s'est stabilisé, on en dénombre désormais 36. Les agences de voyage romandes ont enregistré 5% de réservations supplémentaires par rapport à l'an dernier. Les destinations phares cet été, la Grèce, l'Espagne et la Turquie. 87% des romands privilégient Genève pour leur départ. Météo, pas mal de soleil autour du Léman et en Valais, un peu moins ailleurs, mais quand même des nuages. 21 degrés cet après-midi, 22 demain sous un ciel toujours partagé en matinée, plutôt gris en deuxième partie de journée, avec même quelques précipitations à partir du nord-ouest.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Infotrafic RTS.
Sur l'A9, Veuve et Martigny, un accident survenu entre B et le tunnel d'Arzillier perturbe le trafic en direction de Martigny. La voie de droite est fermée à la hauteur de cet accrochage.
Quand la scolarité obligatoire touche à sa fin, une grande question se pose, et maintenant ? Se projeter dans l'avenir, choisir un métier, un cap important et pas si évident. Le mercredi 28 mai, donnons la parole à celles et ceux qui vivent ou accompagnent ce moment charnière. La Ligne de cœur reçoit des actrices et acteurs de la campagne de sensibilisation. Après l'école, on fait quoi ? Dès 22h sur RTS Première.
Dis pourquoi ? L'émission qui répond aux grandes questions de l'humanité, en toute modestie. Lucas Torrent.
Bonjour, et nous faisons du sport toute cette semaine, en tout cas on discute de sport, pas besoin d'être passionné par ce sport, le tennis, pour apprécier notre semaine d'émission, en tout cas c'est le pari. On se demande pourquoi est-ce que le tennis est si populaire, pourquoi est-ce qu'on connaît tous et toutes des noms de champions, championnes, et puis aujourd'hui par exemple une question assez originale, allez, on s'auto-jette des fleurs, comme on a le rhume des foins, c'est pas grave. Quelle est la place du tennis dans la fiction? Est-ce que ça fait des bons films le tennis? Est-ce que ça fait des bons livres, des bonnes BD? Quelle est la tennis et fiction? Et puis on a vraiment la femme de la situation, Muriel Magellan, puisqu'elle est elle-même scénariste, écrivaine, réalisatrice de films et autrice donc de ce livre Éloge du tennis. Donc inventer des histoires, écrire des fictions, elle sait exactement ce que c'est. Puis on verra si le tennis y a une bonne place. Sur l'occasion de mettre des petits extraits de films aussi, toujours bien des petits extraits de films. On se dit « Ah mais oui !» Cet extrait, je m'en souviens. Dans une vingtaine de minutes, Céline Auclin, nous aurons évidemment une question pertinente à vous donner à notre numéro. Et dans une quarantaine de minutes, une chronique. Cette semaine, chaque jour, on vous présente un autre sport de raquette. Parce qu'il n'y en a pas que pour le tennis. Et aujourd'hui, ce sera... Je vous dis pas. Voilà, non, ce serait bête. Mais nous commençons, c'est une tradition, par une modeste fiction de notre conception. Balle de match pour Pat Laguigne. Le ciel gris et bas d'Yverdon-les-Bains semble vouloir rappeler aux passants qu'il écrase que la vie n'a pas de sens. Dans ce décor, Pat Laguigne. Regardez-le traîner sa molle silhouette sur le macadam de l'existence, telle une limace sous Prozac. Ancien inspecteur de police à qui tout souriait, il est aujourd'hui détective privé à qui tout tire la tronche. On pourrait se dire détective, à lui la variété, l'aventure, le frisson. Eh bien non, car quel que soit le milieu que Pat arpente, il est toujours confronté au même tableau, une nature morte. Le voici d'ailleurs en planque dans un club de tennis. Sa mission est palpitante. Est-ce que ce mari joue vraiment au tennis ou est-ce qu'il a une aventure? Voici la mission pathétique de Pat Laguigne. Il traîne donc à ce club de tennis, gardant un œil sur l'homme qu'il doit filer, et c'est comme toujours la même chose. Là, étalé sans pudeur, dans l'odeur de désinfectant pour sol, de sueur de vestiaire, de gel douche grossier, de plat du jour sans saveur, les voici les éternels vilainies de l'humanité. Là encore, dans ce club de tennis comme partout ailleurs, il voit la vanité, la frustration, la peur de l'échec, l'ego mal placé, le refus de vieillir et cette envie dégoûtante d'écraser les autres. Sans compter les parents qui ont tout misé sur leur morveux pour se rendre compte au bout du compte que leurs enfants sont aussi ratés qu'eux. Oui, Pat broie du noir à s'en faire péter les jointures. Seule surprise, le mari qu'il surveille n'a pas d'amante, n'a pas de maîtresse, n'a pas d'aventure, ou plutôt s'il en a une de maîtresse, c'est le tennis. Ouh, il est accro, il y joue tout le temps, mal, très mal. Et il s'énerve, mais il y joue chaque jour. Pat s'est pris d'affection pour ce guignol. Dans le fond, quel est le mieux? Avoir du talent pour une activité désagréable, comme lui, Pat Laguigne, ou être un incapable dans une activité somme toute innocente, comme cet homme? Pat Laguigne se demande.
Ça valait le coup d'essayer, le coup de la peine dorée, le diable en déshabillé, vêtu de rien qu'un grain de beauté, ça valait le coup d'en finir, y en a même certains que ça ferait rire, et d'autres bien emmerdés. Parfumé, de noir habillé, belle personne fumée. J'écris ça juste avant de tomber. J'ai même pas vu ma vie défiler. Je vois les belles
un soir de linge mouillé, mes lames à peine maculées. Je vous prie de me juger à l'aune de vos innombrables péchés. Vos péchés, quant à vous, sur le point de venir, mais que le moindre détail peut meurtrir. Vous qui certes encore confondez voie de départ et voie d'arrivée, corail et intercité. Je crie ça juste avant de tomber, j'ai même pas vu ma vie défiler.
Le nouveau Benjamin Biolay qui annonce un nouvel album, c'était juste avant de tomber sur RTS Première. Vous écoutez Dit Pourquoi, nous sommes ensemble jusqu'à 15h, nous parlons tennis avec Muriel Magellan. Elle a écrit un livre, édition Payot et Rivage, éloge du tennis. Elle a écrit plein d'autres choses, elle a notamment, c'est notamment l'autrice de Changer le sens des rivières chez Julliard qui avait gagné le prix du Salon du Livre de Genève. Elle est aussi scénariste pour des longs métrages ou pour des séries, elle a notamment co-créé Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Donc la fiction, elle connaît. Et le tennis aussi, vu que c'est sa passion dévorante. Et grâce à elle, toute cette semaine, on explore ce sport sous différents angles. Aujourd'hui, celui de la fiction. Est-ce qu'il y a des fictions avec du tennis dedans? Si oui, lesquelles? Films, livres? Vous verrez tout ça, tout cela, tout ceci. Au 078 206 73 32, voici la question du jour. Quels sont vos souvenirs de regarder des matchs de tennis? À la télé, sûrement. Peut-être. Vos parents. Ou vous. Ou jamais. Le tennis à la télé, ou est-ce que, alors, anecdote personnelle, vous voulez mon anecdote personnelle à moi, vu que j'ai donné celle de hier? Moi, ce que je me rappelle, c'est que quand j'étais étudiant, Roland Garros, c'était le moment qui me disait, t'aurais dû déjà commencer de bosser tes exas, tu vas rater. Voilà, ça, c'est pour moi, c'est Roland Garros à la télé. Oui, c'était mon anecdote personnelle. Donc, dites-nous, vous, le tennis à la télé au 078 206 73 32. Hier, notamment, vous avez entendu cela.
Ça vient du mot tenait. Je crois qu'on disait à l'époque tenesse, hein, ça vient du jeu de pommes. C'était le mot qu'on employait pour engager au jeu de pommes. Et quand le jeu de pommes est arrivé en Angleterre, les Anglais ont gardé ce mot-là, sauf que ça a sonné autrement et ça a sonné tennis.
Et par contre, hier, on n'a pas du tout entendu ça.
S'il pouvait s'exprimer, il raconterait sûrement son aventure hors du commun. Serge est bien au chaud dans son enclos, mais pourtant, hier matin à l'aube, il était dans le tramway bordelais. Les photos ont fait le tour d'Internet. Sur celle-ci, le lama est entouré par 4 de ses 5 ravisseurs. Ivre, ils l'ont volé au cirque auquel il appartient pour le promener en ville. Et ce n'est pas le seul animal qu'ils ont libéré pendant leur périple.
Muriel Magellan, vous êtes écrivaine, vous êtes réalisatrice, vous êtes scénariste et vous êtes l'auteur de ce livre « Éloge du tennis » édition Rivage. On parle de ce sport toute cette semaine, on l'a dit hier, c'est un sport que vous aimez. Vous avez, c'est vous qui avez utilisé le mot « addiction », alors je me permets de le redire aujourd'hui. C'est un sport que vous pratiquez aussi. Et puis comme vous êtes réalisatrice, écrivaine, scénariste, c'est aussi un sport qui a une place particulière dans la fiction. Est-ce que je me trompe si je dis que tennis et fiction, c'est une bonne équipe de double ?
Ça dépend en fait, hein, ça dépend parce que c'est une bonne équipe de double quand il s'agit de cinéma. C'est vrai que ça marche bien, la fiction et le tennis au cinéma. Ça marche moins bien, selon moi, en littérature. La littérature a plus de mal, la littérature de fiction a plus de mal avec le tennis.
Il y a des œuvres quand même, donc là, bah, commençons par le cinéma, vu que ça a l'air d'être, d'être plus facile. C'est quoi les œuvres célèbres ? Il y a vraiment beaucoup ou c'est plutôt quelques œuvres marquantes ?
C'est plutôt quelques œuvres marquantes. Il y a Match Point, par exemple, de Woody Allen.
Ça fait peur de penser que tant de choses échappent à notre contrôle. Dans un match de tennis, il y a des instants quand la balle frappe le haut du filet, où elle peut soit passer de l'autre côté, soit retomber en arrière. Avec un peu de chance, elle passe et on gagne. Ou peut-être qu'elle ne passe pas et on perd.
Moi, un des films que j'aime beaucoup, c'est Borg McEnroe de Pedersen. Il y a L'inconnu du Nord Express. Il y a Challengers de Luca Guadagnino.
Tu crois que le tennis est un moyen de t'épanouir, de t'exprimer. Mais tu sais pas ce que c'est le tennis.
En France, on a Terre battue aussi, qui est un très joli film de Stéphane Demoustier. Il y a Cinquième set de Quentin Reynaud avec Alex Lutz aussi. Voilà, il y en a d'autres. Hein. Je m'arrête. Mais ce sont des films... par exemple, Cinquième set, on a parlé... dans la première partie de l'émission du circuit secondaire, enfin de ceux qui sont au-delà de la 100e place mondiale et de la précarité dans laquelle ils sont. Cinquième set raconte bien ça. C'est un héros qui est incarné par Alex Lutz qui est obligé de donner des cours de tennis pour gagner sa vie en plus de ses voyages, de ses déplacements parce que il n'est plus au niveau qu'il a été et il va assez magiquement se retrouver dans les sélections pour jouer Roland Garros et donc le film raconte ça, c'est-à-dire ce joueur en fin de parcours qui va essayer de rentrer dans le grand tableau, voilà.
Thomas Edison est toujours resté dans les profondeurs du classement sans jamais réussir à revenir au premier plan.
On vieillit tous, Thomas.
Je vais jouer les qualifs.
Tu vas te faire tuer, mec.
Moi, j'adore ce genre d'histoire. Parce que j'adore les joueurs en fin de carrière. Voilà. Je trouve qu'ils sont magiques à ce moment-là.
Pourquoi ?
Parce que... ils portent leur histoire, voilà. Quand ils entrent sur le terrain, Connors en fin de carrière, quand il entre sur le terrain, il porte tout son palmarès et sa frustration de ne plus pouvoir faire aussi bien, mais il va tout donner pour faire aussi bien. Et je trouve ça magique. Nadal, les derniers matchs de Nadal, moi je les ai regardés. Je pouvais me lever la nuit pour les regarder. C'est vrai pour beaucoup de joueurs. Federer, moi je suis une très très grande mordue de Federer. Pour moi c'est vraiment le plus grand de ces dernières années. J'ai attendu ces matchs à partir du moment où on pensait que c'était la fin. Et comme il a joué tard, on a pensé longtemps que c'était la fin. C'était magique de le voir exceller, hein, avec la maturité et le corps quand même qui continue de marcher. C'est beau à voir et c'est épique. En fait, il y a quelque chose d'épique et d'intime. D'extrêmement... En cela, c'est cinématographique, vous voyez. Je pense que... D'ailleurs, il y a plusieurs films de sport qui s'intéressent, hein, comme ça, aux fins de carrière ou au dernier souffle de grands athlètes. Voilà, je trouve que le cinéma sait capter ça, alors que la littérature a plus de mal à le faire. La littérature peut le faire quand il s'agit de philosophie. Il y a des livres de philosophie ou des essais sur le tennis de très belle qualité littéraire, mais des livres de fiction moins. Enfin, on va y venir, je suppose.
Est-ce qu'il paraît qu'au tennis, vous se mâchez comme une patate ?
Qu'est-ce qu'il a dit ?
Someone else, but not for me. Our love was out to get me. Now that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. You get his pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face.
Les Monkees avec le titre I'm a Believer, titre sorti en 1966. Vous écoutez Dis Pourquoi, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. On vous a demandé si vous aimiez regarder le tennis à la télévision ou si vous avez des souvenirs de visionnement de matchs de tennis à la télévision. 078-206-7332. On a reçu pas mal de messages, on va essayer de tous les lire jusqu'à la fin de l'heure. Là, on a le temps avant Céline Auclin pour un message. Allez, je le lis. Je n'aime pas le tennis. Pendant des années, nous n'avions pas la télé. Nous n'avions la télé, pardon, que pendant la période Roland-Garros-Wimbledon. Et elle servait surtout à notre père à justement regarder les matchs de tennis. Je me souviens de dimanches de finale à attendre que Borg, Connors ou McEnroe gagnent pour aller enfin faire quelque chose dehors. Puis nos parents se sont séparés. Quand la période est revenue de louer une télévision, le magasin a appelé. Et notre mère l'a louée avant de l'acheter. Et nous avons enfin eu la télé pour autre chose que le tennis. J'ai aussi été mis sur le court, mais au bout de deux laborieuses saisons de terre battue, mon absence de vision binoculaire a mis tout le monde d'accord. Ce n'est pas un sport pour moi. Voilà, merci pour ce témoignage. Il y en a d'autres, comme par exemple celui-ci, le tennis c'est nul, émoticône rigolé, et puis un long message qu'on va lire après, qui commence par « j'adore le tennis ». C'est bien, c'est quelque chose de clivant en fait, le tennis. Et puis vous êtes aussi, certaines, à pas faire de tennis, mais à aimer regarder le tennis, à faire du tennis, mais à ne pas aimer regarder le tennis. Et puis aujourd'hui, avec notre experte Muriel Magellan, on se demande si on peut regarder des œuvres de fiction sur le tennis, si ça marche bien, s'il y en a beaucoup, et si on peut apprécier une œuvre de fiction avec du tennis à l'intérieur sans aimer le tennis. J'espère que je vais réussir à prononcer correctement tennis jusqu'à la fin de la semaine. C'est un petit challenge personnel. En tout cas, elle, je sais qu'elle va le gagner, ce challenge. C'est Céline Auclin. Elle se pose beaucoup de questions et elle a beaucoup de réponses.
Parce que... Pourquoi le sport, c'est aussi un jargon? Parce que chaque sport a le sien. Le foot, par exemple, c'est facile. But, équipe, joueur, gardien. Facile dans une certaine mesure, jusqu'à un certain point. Point ? Un point pour toi, un point pour moi. Ça, c'est presque universel. celle ou celui qui marque un point, point au jeu, quel jeu ? Jeu, set et match. On dirait des échecs et maths. Le match, ça match autant pour le tennis que le foot, balle, blanche ou jaune, petite ou grande, remise en jeu. Il y a des matchs de tennis et des matchs de foot, des points de tennis et un point de pénalty, des cartons distribués par l'arbitre au tennis comme au foot. Mais là où ça se complique, ou plutôt où ça se différencie, c'est quand nous parlons par exemple de coup franc, de corner, de mise en touche ou remise, de dédégagement, de dédébordement. Pourquoi le sport, c'est aussi un jargon ? Parce qu'au tennis, on peut assez vite être dépassé par non seulement le break, qu'on met un certain temps au début quand on est petit et néophyte à comprendre, et puis une fois que c'est acquis, qu'on a compris le break, on se refait dépasser, dédépasser, tété ou passer par le débreak. Tu t'es taillé au tie-break, c'est à se perdre, à ne plus rien y comprendre. Non, c'est juste que le tennis, c'est aussi une dynamique, un rythme, une cadence dans laquelle on rentre ou pas, et qui est différente à chaque rencontre. Et avec ça, on entend crier « Oh !» Qu'est-ce qu'ils ont dit ?« Hot, faute, hot ou dehors ?» Là, on va me dire que les trois sont possibles. Impossible. Oh que si, pour parler français et anglais. En tout cas, il y a de quoi arrêter pour un temps la partie. Alors pourquoi le sport, c'est aussi un jargon ? Parce que, changement de côté, après chaque jeu impair, une visite sur le banc. En bois recouvert de cuir pour le confort des joueurs. Récupération banane, 1,5 cm gorgée d'eau additionnée d'électrolytes et changement de matos. Est-ce qu'on aurait l'audace de refaire une beauté à son manche de raquette ? Overgrip sur grip et ça reprend. Time ! Pourquoi le sport, c'est aussi un jargon ? Parce que reprise arrêtons-nous finalement sur le filet, celui que les joueurs n'ont pas le droit de toucher pendant les échanges, ni avec leur corps, ni avec leur raquette. Pourquoi ? Parce que faute de quoi ? Let ! Là aussi, c'est net ou let ? Pourquoi pas les deux ? Parce que dans les mots croisés, c'est les deux. Non ? Si, si, voilà pourquoi le sport, c'est aussi un jargon. Parce que c'en est même plusieurs.
Je suis pas assez forte pour oublier, oublier les vallées qui me tordent. Je passe ma vie à les imaginer, sans pour autant pouvoir faire de l'or. Je ne sais plus par quel chemin les retrouver, ces montagnes et ces vallées que j'adorais. C'est comme si le vent les avait parsemées, dans chaque endroit où je décide. Quel chemin me retrouver, j'ai le cœur en miettes, les idées épuisées. Tout est vite et moi j'ai fini par sombrer dans ce blanc où tout à coup j'ai déraillé. Et maintenant
thank you.
La Suissesse, Vendredi sur mer, avec le titre Malabar Princess. Elle sera en concert le 5 juin à Caen dans le cadre du festival Caribana. Vous écoutez Dis Pourquoi, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Nous parlons tennis toute cette semaine, le tennis dans la fiction. Aujourd'hui avec Muriel Magellan, elle est elle-même scénariste, réalisatrice et elle a écrit un livre sur le tennis et son expérience du tennis. La question du jour au 078 206 73 32. Le tennis à la télé, alors vous, comment? Souvenirs d'enfant, activité actuelle, refus obstiné, désintérêt. Et puis on vous l'a dit, on reçoit des messages de gens qui aiment pas du tout le tennis, mais des gens qui aiment beaucoup, comme celui-ci. J'adore le tennis, c'est un sport extraordinaire car tout est dans le tennis. La technique, la forme physique et surtout un mental d'enfer. Cela donne des matchs d'anthologie où finalement le match se gagne aussi énormément sur l'aspect psychologique. C'est fascinant, j'ai plus d'une fois frisé la crise cardiaque avec les matchs de Roger. C'est même marqué « Roger ». Hématicon de cœur à la place des yeux. Je pratique le tennis depuis longtemps, à mon petit niveau. Mais c'est toujours un plaisir de jouer des matchs et souvent cela se gagne grâce au mental. Petite remarque, nous fait cet auditeur, nous prenons toujours toutes les petites remarques. Petite remarque, votre invité a évoqué son classement, mais avec le système français. Pas le même en Suisse, donc cela ne nous disait pas grand chose. Hématicon, clin d'œil. Oui, bah, je me suis dit, tiens, ça c'était hier. Je me suis dit, ça va être le système français. Mais comme pour les non-initiés, le système suisse est tout aussi obscur avec des R9, B12, C4, on dirait une bataille navale et pas un classement de tennis. On se dit, on va lancer cette info, et pas l'élément suivant. On va lancer cette info et puis voilà, la vie est belle. Donc merci pour vos messages. Regardez, est-ce que vous regardez le tennis à la télé? Il y a aussi celui-ci. Oh oui, je regarde le tennis à la télé, mais quand Federer jouait, mais c'était un stress. C'est écrit en majuscule avec beaucoup de S. Stress, pas possible. Émoticon de pouce en haut, clin d'œil, cœur. Et puis, vu qu'on parle tennis dans la fiction, cet auditeur auditrice nous dit « Je me souviens d'un film, Les vacances de Monsieur Hulot, où il joue au tennis avec un certain style. » Je me rappelle, je vois tout à fait le film, mais je me rappelle plus de la scène du tennis. Je vais aller jeter un petit coup d'œil après. Et puis, bien, d'autres messages. Mais pour l'instant, on aura le temps de les lire. Pour l'instant, on retrouve donc Muriel Magellan, autrice notamment de ce livre, hop, je retrouve ma petite feuille. Éloge du tennis, édition Payot et Rivage. On parle du tennis dans la fiction. Elle a parlé des films qui étaient spécifiquement sur le tennis. Il y a aussi des films où le tennis a une place, pas comme sport, mais par sa symbolique. Et un des exemples que j'avais en tête en faisant cette interview, c'est le film Match Point de Woody Allen.
Absolument, oui. Le Match Point n'est pas un film sur le tennis finalement, mais plus sur le destin, sur la vie, sur la fatalité, et prend le tennis comme métaphore. Donc Match Point, la métaphore, c'est la balle sur une balle de match peut parfois toucher la bande du filet, hésiter et basculer du bon ou du mauvais côté. Et donc l'analogie de Woody Allen, c'est dans la vie, est-ce que ce n'est pas la même chose? Est-ce que nos vies ne basculent pas comme une balle qui hésite sur le câble du filet à aller vers une issue positive ou une issue négative? Et donc tout le film de Match Point, sachant qu'il y a du polar hein, dedans, puisqu'il y a un meurtre, il y a aussi bien sûr ce qui est extrêmement réussi, la frustration du héros, tout marche bien avec le champ lexical du tennis, parce que le tennis est un sport aussi de frustration. Et donc là, notre héros principal dans Match Point, il a des frustrations, aussi des frustrations sociales. Donc tout ça va l'amener à un meurtre. Et cette histoire de balle, donc je ne vais peut-être pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais donc sera-t-il pris, ne sera-t-il pas pris? Est-ce que ce n'est pas un petit peu comme cette balle qui hésite sur le câble du filet? Voilà, là c'est vraiment une analogie. En revanche, le film Borg-McEnroe, que je trouve très beau, de Pedersen, j'aime beaucoup ce film. Pour moi, c'est vraiment un film sur le tennis. Là, on est... D'abord, on filme deux grands champions. En tout cas, on les représente.
Et c'est McEnroe qui entre en premier. Sous les huées des spectateurs. Ici, c'est la première fois qu'on voit ça dans une finale. Et voici Bjorn. J'espère que tu sais, Bjorn, que toute la Suède est derrière toi pour t'encourager.
Donc, on fait appel à notre souvenir commun, tous, de l'affrontement Borg-McEnroe et de la rivalité Borg-McEnroe. Mais il parvient aussi à nous raconter l'intériorité de ce sport. Et ça, c'est vraiment magnifiquement filmé. il accepte le temps, il accepte la lenteur. Dans le livre, je cite Godard, hein, qui aimait beaucoup le tennis et qui regrettait qu'on ne lui confie pas de filmer Roland Garros. Alors, je pense que nous, on regrette pas parce qu'on se serait un petit peu ennuyé. Mais il voulait filmer tout le hors-champ. Et c'est intéressant quand même de l'entendre parler de ça. Il voulait filmer quasiment l'endroit où le joueur n'est pas, en fait, où la balle n'est pas. C'est cette chose-là qui a à voir avec le silence, avec la lenteur. C'est un sport qui a ses coups d'accélérateur, mais il a une grande spécificité, c'est que le temps n'est pas défini au début du match. Un match de foot, on sait que ça va durer 90 minutes. Un match de tennis, on ne sait pas. On arrive et ça peut durer 40 minutes et ça peut durer 5 heures. Et donc, il y a quelque chose dans le rapport au temps qui, pour moi, est cinématographique, en fait, et beaucoup plus compliqué à capter en littérature.
Mais pourquoi ? Parce que la littérature, moi, j'ai l'impression que c'est... Alors, c'est évidemment vous, la scénariste, hein, et écrivaine. J'ai l'impression que la littérature, on peut faire plus facilement expliquer les pensées des personnages, tandis qu'on doit le suggérer. Quand on filme, on doit mettre une voix off, ce qui, des fois, est un peu lourdeau. Tandis qu'en littérature, on peut écrire ce qui se passe dans la tête des protagonistes.
Oui, c'est vrai, mais comme tout au tennis ou quasiment se passe dans la tête des personnages, il y a quelque chose qui va plafonner, on va dire, en littérature. Alors Mathieu Lindon a fait des beaux textes hein, sur le tennis, des beaux romans, on va dire, mais qui sont romans immobiles, parce qu'on est ou romans philosophiques, on pourrait dire, parce qu'on est beaucoup dans la tête des personnages. C'est presque théâtral pour moi, c'est-à-dire que la langue est très belle, mais on a presque envie de la voir ou de l'entendre dire sur une scène. Yep. Je pense que ça marche mieux au réalisé finalement.
Dis pourquoi ?
We'll be right back. Un titre de 1980, tout pile, le groupe de New Wave britannique Visage, avec le titre Fade to Grey. Vous écoutez Dis Pourquoi, nous sommes ensemble jusqu'à 15h, nous parlons strictement de tennis, mais dans tous ses états aujourd'hui, le tennis dans la fiction avec Muriel Magellan. Nous allons commettre une petite chronique sur un autre sport de raquette, parce qu'on avait peur que les sports de raquette, les autres soient jaloux, puis qu'après ils soient tristes, puis nous quand on voit des gens tristes, ça nous rend triste, puis après on pleure, puis après à l'antenne on comprend moins bien ce que je dis. Donc nous allons parler d'autres sports de raquette, mais avant cela, vos messages au 078 206 73 32, message texte uniquement. Est-ce que vous regarderez le tennis à la télévision? Qu'est-ce que c'est pour vous, le tennis à la télévision? Pour les 60 ans de notre maman, ça c'est une petite expérience personnelle. C'est pas forcément directement une réponse à la question, mais vous le savez, à la radio, qu'est-ce qui marche le mieux? Les expériences, les anecdotes personnelles. Vous allez voir, ça marche. Pour les 60 ans de notre maman, nous lui avons offert des billets pour Roland-Garros. Nous avons eu le bonheur de voir jouer Roger Federer contre Gaël Monfils. Le match a duré 3-7, beaucoup trop court pour nous, mais une journée dont on parle encore aujourd'hui, c'est cette année-là que Federer avait gagné le tournoi en 2009. Voilà une petite anecdote personnelle liée au tennis, c'est chouette. Une autre anecdote personnelle liée au tennis, mais moins chouette, je me rappelle de Monica Seles qui se fait poignarder en direct. Petite icône horreur, je n'avais que 7 ans, ça me marque encore. Oui, c'est vrai, on se rappelle sûrement toutes et tous de cet effroyable fait divers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un jeu de mots, il n'y en avait pas encore eu aujourd'hui, donc on va le lire. Les coins à champignons sont des terrains de sport. Vous voyez la blague? Sport écrit avec un E à la fin, voilà. Terrain de sport. Et puis il y a quelqu'un qui répond enfin à la question. Je n'ai jamais vraiment regardé le tennis à la télé. Et je n'ai donc pas grand-chose à raconter à ce sujet. Voilà. Par contre, attendez, il y a un par contre. J'ai pas mal de souvenirs liés au tennis. Il y avait un terrain de tennis en terre battue chez mes grands-parents paternels. Et mon père a essayé en vain de m'initier à ce sport, sans succès. Ce que j'aimais bien par contre, c'était aider mes cousins à nettoyer le terrain et les lignes pour la nouvelle saison pendant les vacances de Pâques. Vous voyez, paf, anecdote personnelle, on y était nettoyer le court avec mes cousins pendant les vacances de Pâques.
Pourquoi êtes-vous si triste?
Pourquoi tu pars comme ça?
Pourquoi êtes-vous si triste?
Et pourquoi?
Ouais, pourquoi?
Donc, grâce aux recherches de Nicole Fontana, chaque jour, nous vous parlons d'un autre sport de raquette. Et aujourd'hui, le badminton. Ne faites pas semblant, vous savez ce que c'est. Le badminton, sport de raquette. Particularité, ça se joue pas avec une balle, ça se joue avec un volant. Alors, en découvrant la recherche de Nicole Fontana, je m'étais imaginé que l'invention du volant, ça devait être assez original, assez unique, quelle drôle d'idée de jouer avec un volant. Eh bien, pas du tout. Des humains, depuis très 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 longtemps, partout sur la surface du globe, ont inventé, oui, des balles, mais aussi des volants pour jouer avec. L'humain est fantastique. En Chine, il y a des milliers d'années qu'on joue avec un volant. Au Japon, il y a un truc qui s'appelle le Hanetsuki. Pendant que nous, on était en période médiévale, eux, au Japon, ils faisaient ce jeu. C'était, fallait, donc le volant, c'est avec son corps. Il fallait pas qu'il touche le sol. Voilà, c'était, on jouait avec du volant. Et en Europe, justement, au moins depuis le 18e siècle, il y a des volants pour jouer. Par exemple, le peintre Fragonard représente des filles de bonne famille qui s'amusent à frapper un volant avec une raquette pour qu'il reste le plus longtemps en l'air. Donc les volants sont en fait absolument partout et c'est pas du tout quelqu'un qui a inventé le volant. Non. Alors pourquoi badminton? Parce qu'une fois de plus, oui, ce sont les Anglais. Les Anglais ont inventé pratiquement tous les sports. Nous voici en 1837. C'est la petite histoire, donc elle est forcément fausse, mais je vous la raconte parce qu'elle est jolie. 1837, des officiers de l'armée des Indes sont de retour, peut-être pour une permission, peut-être pour toujours en Angleterre. Ils sont dans la ville de Badminton. Oui, c'est le nom d'une ville. Ils veulent jouer au jeu indien de Poona qui se joue avec une balle. Ils n'ont pas de balle, ils auraient pris un bouchon de champagne, planté des plumes dedans et inventé un sport. Et puis, puisqu'ils étaient dans la ville de Badminton, ils l'ont appelé Badminton. Bon, c'est sûrement une légende parce que des échanges de volants avec une raquette par-dessus un filet, il y a un texte de 1767 qui l'atteste dans l'ouvrage de François de Garceau, L'art du pommier raquetier. Il explique que le jeu de paume dont on parlait hier, des fois on jouait avec des balles, mais des fois on jouait aussi avec des volants. Donc voilà, bref, l'histoire du badminton. Ce qui est sûr, c'est que c'est les Britanniques qui ont donné le nom badminton, qui ont institutionnalisé le jeu et créé la première fédération en 1893. Et le jeu met assez long à devenir populaire, le badminton, hein. Fédération internationale en 1934. Seulement en 1992, aux Jeux Olympiques, en Europe, le sport met du temps à se populariser, mais pas en Asie. Vous le savez, grâce à des expatriés britanniques, plusieurs pays d'Asie développent le sport dès le milieu du XXe siècle. Et par exemple, si on regarde les médailles olympiques, ça fait Chine, Indonésie, Corée, Danemark, en termes de nombre de médailles par pays. Et puis alors la popularité du sport, mais aussi les techniques spécifiques développées en Asie, la manière de préparer le physique avant la technique, font que ce sont les Asiatiques qui dominent ce sport, le badminton. Et puis hier, la pelote basque frimait en disant c'est le sport où la balle est la plus rapide, 300 km/h. Un auditeur nous disait, et le golf, effectivement le golf, 380. Et vous savez quel est le record de vitesse d'un volant de badminton ? Un gros, gros match. Le joueur indien, j'arrive pas à prononcer son nom, a pulvérisé le record en 2023. Guinness World Record, donc c'est un truc... Et, allez, à votre avis, la vitesse du volant, 565 km/h. Le volant, c'est fou. On écoute Omar sur RTS Première. Ça s'appelle « Can we go out ?»
Da 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 da
Vous écoutez Dis Pourquoi, on est toujours ensemble jusqu'à 15h, une dizaine de minutes, pratiquement parfaitement 10 minutes. Et nous parlons tennis avec Muriel Magellan, on la retrouve dans quelques secondes. On continue de parler spécifiquement aujourd'hui du tennis dans les fictions. Et vos messages au 078-206-73-32, je me demandais si j'avais fait une contre-pétrie sans faire exprès, mais je ne crois pas. Bref, au 078-206-73-32, vous, est-ce que vous regarderez le tennis à la télévision, ce message sympathique? J'ai toujours adoré regarder le tennis à la télé, mais quand j'ai commencé du temps de Borg, l'écran était si petit qu'on ne voyait pas les balles qui étaient blanches. Frustration. J'imagine tout à fait. Cet auditeur nous dit « Ma femme, ayant passé son enfance à Wimbledon, elle suit volontiers les matchs, surtout quand Federer jouait. Je me suis surpris à la rejoindre devant le poste, mais là ça devient vite terrible pour moi. Les mains moites et les pieds poites, je vacille à chaque coup perdu de Roger au point de devoir quitter les lieux trop anxiogènes. D'ailleurs, chaque fois que je regardais Roger, eh ben il perdait. Du coup, j'étais interdit de salon. » Émoticône goutte de sueur. Et puis cet auditeur, auditrice, nous dit « Je déteste le tennis, mais j'adore revoir régulièrement les films. Un éléphant, ça trompe énormément et nous irons tous au paradis. » C'est vrai que c'est des comédies françaises, je crois, des années 70. Il y a Jean Rochefort dedans, notamment. Et ça se passe, c'est un groupe de copains. Et ça se passe souvent dans un club de tennis. Oui, j'avais oublié. Merci pour vos messages. Est-ce que du côté des SMS, on a quelque chose? Oui, on a quelque chose. Je vais lire ce message tranquillement en vous laissant avec notre experte Muriel Magellan. Elle a fait des films, elle a scénarisé des films, elle a aussi écrit des livres, dont cet Éloge du tennis, édition Payot et Rivage. On parle du tennis dans les fictions. Je lui ai demandé si on trouvait du tennis au théâtre.
En fait, le très beau texte qui s'appelle Open d'André Agassi, qui est son autobiographie qu'il a écrite en collaboration avec Richard Morringer, qui est un prix Pulitzer américain, qui l'a aidé à raconter sa vie un peu à l'américaine, comme ses romans d'apprentissage, vous voyez, avec cette langue un peu de jeune homme qui n'a pas envie de faire du tennis. Voilà, Open, ça commence comme ça, je déteste le tennis. Donc c'est tout de suite une accroche romanesque à l'américaine. Open a été adapté au théâtre en France, au théâtre du Rond-Point, parce que c'est assez théâtral finalement, tout ce chemin qu'on fait dans la pensée intérieure. Open n'est pas un roman, vous voyez. Quand je vous dis que la fiction a du mal, Open qu'on cite souvent dans les très grands livres sur le tennis, ce n'est pas un roman, c'est une autobiographie. Ça marche mieux. Alors il y en a un, hein, il y en a un où moi il y en a un que j'adore quand même, qui est l'infinie comédie de Foster Wallace. Ça c'est un grand roman sur le tennis ou en tout cas avec le tennis comme tribune. C'est un livre je vous en parle un petit peu. C'est un livre de 1000 pages. Foster Wallace était lui-même un grand joueur de tennis. En tout cas, il a été pas loin de l'être, américain. Et c'était un homme très tourmenté, très cultivé, très érudit. Et il a écrit ce livre qui fait 1000 pages, qui est un livre sur les addictions, justement. Hein, addiction à l'écran, addiction à la performance, addiction à la drogue. Et donc, il y a un des endroits de ce roman qui est une académie de tennis dans lequel se trouve Al, son héros, le principal personnage du livre, mais c'est très choral quand même. Hein. Et on va très régulièrement revenir au tennis comme métaphore, comme endroit de penser l'intériorité, la solitude, aussi l'excès d'excellence, quoi, justement, l'excès de performance, de la gagne. On commençait à venir, quand Foster Wallace écrit L'infinie comédie, c'est non seulement le moment de l'expansion de la télévision, et donc qui est pour lui un écran, hein, on est déjà dans la drogue des écrans, mais aussi dans le monde du tennis qu'il connaissait bien, de l'ultra-performance. Donc on quittait le romantisme de l'époque McEnroe pour aller vers... tout est travaillé, tout est décidé, le corps devient... tellement athlétique, voilà. Le tennis s'ultra-professionnalise. Et donc, il capte ça dans ce livre de façon je trouve magnifique.
Muriel Magellan, peut-être dernière question pour aujourd'hui. Est-ce que, dans le fond, c'est tous les sports qui se prêtent bien à la fiction et à raconter des histoires, ou le tennis particulièrement ?
Le tennis se prête... les sports se prêtent bien au cinéma, mais pas tous, hein, pas tous. Le tennis, ça va, donc on a vu hein, qu'il y a de très beaux films sur le tennis. La boxe, par exemple, est un film aussi, est un sport extrêmement... cinématographique. Le baseball, les Américains ont su faire des très beaux films là-dessus, mais par exemple sur le football, je trouve que le cinéma a plus de mal. C'est moins son endroit. La littérature a su faire de très beaux textes aussi sur le vélo, sur la boxe, mais sur le tennis, en fiction pure, à part l'Infinie Comédie, c'est plus délicat. Bon, ma sensation, en fait, c'est que le tennis est un sport de l'intime. Et sa dimension épique est très compliquée à raconter d'un point de vue scénaristique pur, en fait. La dramaturgie d'un match, et pourtant Dieu sait qu'il y en a, se heurte au langage, en fait. Le langage ne sait pas s'emparer de la dramaturgie d'un match. Alors que quand on le regarde, on l'aperçoit, le silence y arrive beaucoup mieux, d'une certaine façon, à raconter le match que les mots. Et je pense que c'est parce que le joueur est face à lui-même, au maximum face à son adversaire, mais c'est le grand maximum, on est deux au maximum. Alors que par exemple le vélo, qui est un sport que j'aime beaucoup et que je regarde régulièrement à la télévision, notamment le Tour de France, le vélo... il est social, c'est-à-dire que c'est un individu dans une équipe, un individu avec des capacités, dans une équipe qui a d'autres capacités qui se complètent. Ces équipes vont s'affronter entre elles, faire alliance quelquefois. Vous voyez, on a une sorte de représentation de la société. Le tennis ne va pas plus loin que de moi et de moi à toi. Voilà.
Il n'y a pas de match nul au tennis.
Quoi ?
Tu as dit un set partout, match nul. Ça ne veut rien dire.
Veux-tu que nous allions un jour sur la montagne de l'amour, là-bas, perdu parmi les fleurs, il y a le temple du bonheur. Un petit sentier serpente, tout parfumé de lavande, tandis que les sources chantent comme des oiseaux d'argent là-haut. Le ciel n'est jamais gris, là-haut c'est presque un paradis. La vie a des gants de velours sur la montagne de l'amour. Depuis plus de 1000 ans, nous dit la légende, les amoureux du monde entier apportent leurs offrandes. Et quand on a monté le sentier de pierre, en se tenant la main, on doit s'aimer la vie entière. Veux-tu que nous allions un jour sur la montagne de l'amour, là-haut se donne rendez-vous tous ceux qui s'aiment comme nous. Entre le ciel et la terre, dans ce pays de lumière, nous ferons une prière pour que vive notre amour. Partons vers ce lointain pays, allons chercher le paradis. Plus tard, nous penserons toujours à la montagne de l'amour. La 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 montagne de l'amour.
Nana Mouskouri avec ce titre en 1962, une reprise en français, La montagne de l'amour, d'un titre qu'elle avait enregistré en grec, et en grec ça s'appelle O Imitos. je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est toujours chouette de dire du grec avec un peu un faux accent grec à l'antenne. Un dernier message. On vous a demandé si vous aimiez regarder le tennis à la télé. Cette auditrice nous dit « Pas fan de tennis, je n'ai jamais touché une raquette, mais au nom de la sacro-sainte procrastination, j'ai regardé à la télé tous les matchs de Roland-Garros lorsque j'étais étudiante. L'excuse ultime pour ne pas avoir à étudier. » Je pense qu'on est nombreuses à l'avoir fait. Puis un auditeur nous dit « Mais le jeu de paume, c'est pas aussi un musée à Paris ?» Mais si. Et puis c'est, en fait, c'est une salle, hein, Mélanie Croubalian, vous qui savez tout.
Non, je ne sais rien, surtout pas sur le tennis, parce que je ne sais absolument pas y jouer. Mais c'est vrai que j'aime bien regarder aussi.
Hein, il y a quelque chose.
Ouais, c'est assez divertissant. J'ai une maman qui repasse en regardant le tennis. Et elle n'a jamais touché une raquette de sa vie.
C'est beau. Est-ce
c'est
que
tout sur le tennis.
Je vais vous poser la même question toute la semaine, vous êtes prête? Est-ce que votre invité joue au tennis, à votre avis?
Alors, c'est fort possible. En tout cas, elle fait pas mal de sport, puisqu'elle est, elle a fait des Ironman, carrément.
Ah ouais.
Quel genre, hein. C'est 180 km de vélo, on nage, et puis après, on fait un marathon.
Puis enfin, journée, je fais un tennis, parce, voilà. Parce qu'elle a encore un peu du jus.
Peut-être pour se détendre, oui. Elle s'appelle Loupna Frey.
Ce sera dans Drôle d'époque. Vous êtes avec Simon Matédoré, mais les infos, puisqu'il est tout à fait 15h.